plus de lumière parce qu'il y en a qui, pour prendre des notes, trouvent ça mieux. Voilà. Oh bah présentez-vous, mais de toute façon, il y a vos noms au-dessus. Bah c'est plutôt pour entendre le son de votre voix. On y va, chacun. Surtout votre prénom, votre nom,
partez tout au-dessus. Dites comment vous appelez. Comment je m'appelle? Je m'appelle Emmanuel Porte, bonjour à tous. Je travaille à l'INJEP, qui est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire.
Bonjour, Christine Gonola, de l'UPP Paris.
Bonjour, je suis Sophie Lamotte et donc je suis intervenue en tant qu'universitaire auprès de l'Université des Mureaux.
Bonjour à tous, Rabi Rachida, Université Populaire des Mureaux.
Bonjour, Patrick Rayoux, Université de l'UPP de Noisy-le-Grand.
Bonjour, Djelila Boulgobra, UPP des Chirolles.
Voilà, la table ronde qui commence maintenant va être sur la méthodologie de recherche. On vient de voir dans la table ronde d'avant toute l'importance des échanges à horizontalité, avec horizontalité. Et maintenant, on va finalement approfondir ce que Guylaine Girard nous a présenté tout à l'heure quand il y avait toutes les étapes d'une recherche. Donc c'est une table ronde un peu méthodologique, mais d'abord vue, on va commencer par ça, par les trois parents qui sont à la tribune, Djelila, Rachida et Christy, pour dire comment est-ce que vous voyez ces étapes de recherche. Alors c'est parti. Rachida.
Je m'excuse par avance si je bégaye ou que je perds mes mots, parce que c'est presque une première de prendre la parole avec autant de personnes en face de nous. Donc dans un premier temps, on a la phase exploratoire. Donc les parents se retrouvent, pour nous à l'UPP, dans un premier temps, une fois par semaine. Donc on partage chacun ou chacune ses problématiques, généralement toujours autour des enfants. Donc au niveau de la fréquence d'une fois par semaine, nous avons trouvé que c'était très lourd à organiser, puisque nous avons aussi tous nos vies professionnelles et familiales. Donc nous avons élargi à une fois tous les 15 jours. Et ensuite, nous avons décidé tous ensemble que ce soit une fois par mois, mais toute la journée. Donc, en fonction des sujets que nous avons partagés, il y a un sujet primaire qui sort des discussions. Ensuite, on cherche à se documenter selon le sujet, à visionner différents documentaires. Donc, voilà.
C'est la phase exploratoire.
Tout à fait.
Comment ça continue?
Je vais prendre la suite, mais je vais juste compléter un peu sur la phase exploratoire, comme l'a détaillé Rachida. C'est que donc c'est une phase exploratoire où, en fait, ça va durer quand même une bonne année. On va recueillir pendant cette période-là la parole des parents du groupe. Et puis la parole des parents aussi sur un territoire un peu plus large. Et c'est là que le groupe de parents, en fait, va se construire. Il va se renforcer. Et une fois que ce groupe-là est parti, donc on va penser à la question de recherche. Donc, en soi, c'est tout un travail d'une année, pratiquement, avant de se lancer dans cette démarche-là. Et donc, il faut préciser avant tout qu'est-ce qu'une question de recherche. Donc, pour vous donner un petit exemple, une question de recherche, ça peut être quel est l'impact de l'environnement sur l'éducation de nos enfants. Donc, une question de recherche, c'est aussi donc la parole des parents qui a été en fait concentrée avec des possibilités de faire des tris, faire des classifications. Des outils qui sont utilisés, tels que la patate ou en fait la méthode de l'entonnoir. On va en fait formuler une question de recherche qui reflète en fait la parole, non pas la parole personnelle, mais la parole collective et celle aussi qui a de parents qui ont été aussi auditionnés, on va dire, en dehors du groupe. Et pour construire cette question de recherche, On a eu l'aide donc, de ce fameux universitaire. En général, ce sont les parents qui le recrutent. C'est une relation qui va se créer. Et lui, il va nous apporter surtout une aide sur la méthodologie. Et donc, il va nous éclairer sur les mots, sur le sens de chaque mot, parce que chaque mot ont une importance. Il va mettre l'accent sur la sémantique et ça va définir en fait la question de recherche qui va nous animer tout le long de ces différentes étapes que nous allons pouvoir poursuivre. Voilà.
Parce qu'en fait, la question de recherche, ça ne suffit pas, Christy.
Non, il faut poursuivre. Donc, une fois la question de recherche posée, nous devons effectivement réfléchir sur les hypothèses de recherche. Alors, en termes de définition, les hypothèses de recherche sont des suppositions qui constituent des réponses possibles à une question de recherche. Et nos parents, nous envisageons déjà quelques réponses. Alors, nous devons nous mettre d'accord sur quelle hypothèse de recherche, comment les construire, surtout les préciser et nous donner des limites de recherche. Alors, à cette étape, une fois la relation déjà établie avec notre universitaire, elle va pouvoir aussi intervenir sur cette partie-là, justement pour nous aider à formuler, à reformuler nos hypothèses que nous commençons déjà à travailler ensemble. Donc, et ensuite, nous poursuivons notre travail en tant que parents, c'est un travail de recherche, de fond. Donc, à l'aide des outils et des méthodes, nous allons vérifier justement nos hypothèses, ces suppositions qui vont constituer les recherches, les réponses plus tard, et donc de savoir si notre hypothèse, elle est vraie, si elle est fausse ou si elle a nuancé. Donc justement, nous, on se disait qu'effectivement, les hypothèses, c'est des secrets qu'on ne dévoile pas au moment où nous interrogeons les parents, afin que ceux-ci puissent vraiment dévoiler leur avis sur leur vision sur notre recherche, notre réflexion. Donc c'est très important pour nous de laisser cette parole libre. Donc une fois ce travail qui est fait à l'aide des outils et des méthodes, nous posons donc la réflexion et donc par rapport à la question de recherche qui a été évoquée par Dilila, nous avons un exemple d'hypothèse. Donc sur cet UPP, les parents ont des responsabilités, mais ils ne sont pas coupables quand ça ne va pas. Donc prise de position des parents de l'UPP sur le refus de la culpabilisation, de la moralisation des parents. Donc les hypothèses vont nous guider tout au long de notre recherche.
Et après, Rachida.
Donc après, pour notre part, nous avons effectué un courrier pour informer toutes les écoles de notre ville de notre question de recherche, puisque nous avons travaillé sur la sanction ou la punition à l'école. Donc, n'ayant pas de réponse, nous avons construit des questionnaires, des directives pour les enseignants, des questionnaires fermés pour les enfants et des entretiens, des grilles d'entretien avec les parents. Donc après, il y a tout un traitement, des analyses, les données, il faut traiter toutes les données, donc ça prend un temps fou puisqu'il y a des entretiens qui vont durer quand même 2h30. Donc on a travaillé soit en binôme, soit en trio. Après, avec les conditions dans lesquelles nous sommes tous passés, on a beaucoup travaillé par Zoom également.
Donc vous mettez en place des outils comme cela, qu'on peut dire plutôt connus, en tout cas par les chercheurs, mais parfois vous inventez des outils moins connus. Jelila.
Oui, alors... Effectivement, on utilise des outils classiques comme l'a énuméré Rachida, entretien et autres, mais aussi en, donc, avec des questions ouvertes ou fermées. Et ben nous, donc, les questionnaires aussi, on peut avoir aussi une petite... comment dirais-je, on n'est pas que des parents aussi qui travaillons à l'UPP, on a nos enfants. Donc certains questionnaires sont aussi élaborés, par exemple, pour certains questionnaires, ce sont les enfants qui ont bâti le questionnaire des enfants jeunes, puisqu'on parle vraiment mieux avec les enfants et pas pour les enfants. Donc pour le coup, parfois on peut être beaucoup plus... on cible mieux... et on reste à leur niveau. Et puis aussi, on peut créer aussi des différents supports. Donc nous, on a opté pour deux jeux créatifs que nous avons expérimentés sur les ludothèques du territoire échirolois, entre autres, pour pouvoir peaufiner ou compléter ce qu'on n'a pas pu en fait développer par les questionnaires ou les entretiens semi-directifs. Et puis surtout, c'est que donc ça nous a permis aussi d'établir l'échantillon des personnes à interroger. Et puis surtout, c'est que le monsieur Covid ou madame Covid, elle s'est invitée. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et donc certains questionnaires n'ont pas pu être faits de manière directive ou entretien. Donc ça a été envoyé en ligne. Voilà.
Voilà, donc vous mettez en place tous ces outils, vous réalisez tous ces contacts pour recueillir des données. Qu'est-ce que vous faites après?
Oui, donc comme vous le voyez, hein, tous ces outils nous ont permis effectivement de recueillir des données que nous allons pouvoir exploiter. Donc nous, sur l'IPP de Paris, nous avons principalement utilisé des tableaux. Hein, nous avons créé des tableaux qui nous ont permis d'enregistrer le nom de l'intervenant. Du parent intervieweur, le parent intervievé, son sexe, le nombre d'enfants, l'âge des enfants. Nous avons pu mettre en évidence aussi les mots-clés, des thèmes, des couleurs. Voilà, donc pour avoir une vision globale du tableau, qui était assez, ce qui était pour nous un tableau collaboratif, qui puisse nous permettre de savoir où nous en sommes dans nos données, qu'est-ce que nous allons chercher, comment est-ce que les données se croisent, où sont les divergences. C'est un tableau qui nous permet de travailler de manière efficace. Et donc toutes ces données étaient classées et nous avons ensuite créé un Google Drive qui nous a permis à chaque parent de l'endroit où se trouvait de pouvoir participer, de pouvoir contribuer à l'alimentation, à enrichir le tableau. À tout moment, on pouvait s'appeler entre maman, travailler à 21h, le samedi ou dimanche. Donc c'était un travail collectif, hein, ce tableau et les réseaux. Donc c'était pour nous important d'utiliser ce tableau afin de bien enregistrer le fruit de nos travaux qui nous a facilité justement dans cette démarche vers l'analyse.
Merci Christy. Toujours sur l'exploitation peut-être, Jalila ?
Oui, donc nous, parfois donc avec les tableurs, parce que des tableaux croisés, dynamiques, on avait trop d'informations. Et donc, on a utilisé ce logiciel qui analyse plutôt les questionnaires, le Drag and Survey, ce que détaillait Christine. Et c'est un logiciel qui permet d'identifier les différents thèmes par groupe de pairs et de faire des croisements de points de vue. Par exemple, nous, sur la thématique de l'épanouissement, on a pris les quatre groupes de pairs, enfants jeunes, institutions, enseignants et familles. Et ce logiciel-là a permis de croiser ces thèmes-là et ça nous a permis d'être plus à l'aise par rapport à l'analyse et à l'écriture par la suite. C'était un chouette support.
Et bien l'écriture, du coup ?
L'écriture, et bien elle a commencé depuis le début, hein, depuis les rencontres. On note tout, hein, tout ce qui nous passe par la tête, les mots-clés, les visions, tout ce qui pouvait se croiser, c'était déjà inscrit. Donc on garde les traces, voilà, c'est important. Et pour rédiger, ben, on va commencer par l'historique aussi, notre groupe. On reprend tout depuis le début et on formalise un plan détaillé. Alors nous sommes conscientes hein, du nombre de pages hein, et cela pouvait nous frustrer, mais il fallait faire un travail de synthèse. Donc cela ne nous a pas arrêté, mais on a poursuivi donc la synthèse. Et donc la phase réelle d'écriture, qui n'est pas simple, ben, on s'engage. Ça peut générer aussi un sentiment d'isolement au moment de l'écriture, mais certaines parmi nous étaient plus à l'aise que d'autres et on réfléchissait sur des meilleures organisations. On pouvait se mettre en binôme ou en trinôme pour écrire, voilà, ensemble. Celles qui étaient plus à l'aise sur l'orthographe pouvaient corriger. Et d'autres qui voulaient noter des citations, ben c'était du plaisir, voilà. Donc on connaissait nos ressources, nos capacités, et l'idée c'était de valoriser ce que chacune pouvait faire. Et c'était important pour que le vocabulaire employé qui transpire de nous. Donc on avait toujours ce temps-là de se mettre d'accord sur les mots employés. Pour qu'à la fin, l'ouvrage soit vraiment à notre image.
Oui, alors moi, Christy, je vais compléter un petit peu. Moi, je trouvais que l'écriture, il y avait une difficulté, parce que là, c'était un travail dit collectif. Donc, un chercheur, quand il écrit, il est seul et c'est parfois plus simple. Quand vous écrivez à plusieurs, la logique n'est pas toujours des plus simples non plus. Alors on s'adapte et c'est un challenge, un défi. Et puis en plus, il faut dans l'écriture que la question de recherche qui était à la base reste toujours d'actualité. Et cette question de recherche qu'on avait arrêtée au départ par le groupe, comme je dis, où le consensus était là, mais surtout le consentement à la base de cette question de recherche pour que le groupe puisse partir sur cette aventure-là, bah, l'écriture, elle s'en ressent aussi et c'est toute la difficulté. Et puis, comment dirais-je, le groupe, c'est différentes ressources et il faut laisser personne en route. Donc, voilà, et on profite des ressources de chacun et de chacune, comme tu dis, Christy. Nous, on avait les super mamies de la citation ou les super doués de l'orthographe, etc. Chacun mettait sa petite pierre à l'édifice et c'est ce qui faisait la force aussi à cette étape-là, qui était cruciale.
Voilà, merci beaucoup pour cette revue de méthodologie, hein, étape par étape, que vous nous présentez, Rachida, Christy et Djelila. Et Sophie Lamotte et puis Patrick Rayoux, vous êtes de ces universitaires dont on a entendu parler, qui ont accompagné cette démarche. J'ai une petite question qu'on n'a pas du tout préparée, mais donc vous avez été recrutée par les parents. On l'a entendu plusieurs fois. C'est comme ça que ça s'est passé?
Ah oui, c'était un vrai entretien qui était. Il y a eu aussi la question du salaire. Tout a été abordé, le parcours, la mise en concurrence avec d'autres universitaires. Donc c'était un vrai entretien avec. Et j'ai su, enfin vraiment, que c'était une démarche qui avait dû être menée du début jusqu'à la fin par les membres du groupe.
Ok. Voilà. Merci, Patrick Rayoux.
Oui, j'ai été heureux de passer avec succès les épreuves de sélection, mais ça n'était pas acquis dès le départ. Je dois dire, j'ai eu un peu peur.
Merci. On voit bien l'impact et le sens de tout ça. Mais là, en tant qu'universitaire, vous venez d'entendre les parents, mais enfin, ça fait plusieurs années que vous bossez avec les UPP, mais vous venez d'entendre les parents présenter la méthodologie, et vous savez donc la place qu'a eu la méthodologie dans ce que les parents en ont fait. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus, sur la manière avec laquelle les parents ont bossé avec méthodologie? Qu'est-ce que ça vous inspire, votre expérience vécue sur ce point, l'un ou l'autre, Sophie?
C'est vrai que c'était une phase qui était assez exaltante. Et il y a eu toute une énergie du groupe qui se met dans notamment la phase d'enquête, qui est la découverte de la méthodologie, l'appropriation. Et c'est vrai que moi, par exemple, ce moment du passage à l'enquête, ça a été un moment fort pour le groupe. Il y avait une énergie incroyable. Et du coup, elles ont aussi très vite découvert les réalités de ce que c'était que se confronter à un terrain et à ses limites. Donc il y a eu cet exemple dont a parlé un peu Rachida sur tout d'un coup cette possibilité et cette envie d'aller solliciter l'ensemble des membres de la hiérarchie de l'éducation nationale sur la question de la punition scolaire, préparation de questionnaires, sollicitation, démarchage. Et en fait, il y a eu un silence institutionnel. Tout d'un coup, donc, on a pu l'analyser et comprendre que, en fait, on avait là un sujet qui était problématique, qui était difficile à mettre en discussion. Et donc, en se cassant les dents sur la réalité d'une enquête en sciences sociales, le silence de certains acteurs, d'un sujet difficile à aborder, voilà, donc ça a été une expérience qui nous a permis, à la part la mise en place de l'enquête, de commencer à rentrer aussi dans l'analyse. Et ça n'a pas essouffler leur énergie et leur envie de continuer et de redéployer le dispositif autrement.
Merci. Patrick Rayou, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la méthodologie que vous avez vue mise en œuvre ?
Oui, alors je vous ai laissé sur une inquiétude qui était la mienne au départ, mais j'ai été très vite rassuré parce que les parents que j'avais devant moi, à partir du moment où ils se sont lancés dans une recherche, ont découvert exactement les mêmes types de difficultés de questions que tous les étudiants que j'ai pu avoir depuis que je suis à l'université, parce que quand on fait la recherche, c'est là cette forme d'horizontalité, si vous voulez, au sens où on est confronté rigoureusement au même type de difficultés et que les solutions qu'ils ont trouvées sont les solutions qu'on trouve en général quand on se lance dans ce genre d'aventure de recherche. Donc, moi, je crois qu'il faudrait, à la fois l'événement est exceptionnel, mais il faudrait aussi le banaliser parce que si nous réfléchissons bien, quand nous avons été bébés, nous avons commencé par faire beaucoup de recherches. Par la suite, il y a eu des spécialisations, on nous a donné des certitudes, et une partie d'entre nous ont arrêté. Mais ce que font les parents-là, c'est renouer avec cette pratique profondément humaine qui est de se faire une idée par soi-même, d'investiguer le monde, de se créer des compétences, de s'appuyer sur celles qu'on a déjà. Et ça, pour moi, ça a été quand même une découverte parce que je ne m'imaginais pas que ça serait aussi facile. Je vais donner un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Les parents qui m'ont donc embauché voulaient au départ s'intéresser, et ils s'intéressaient toujours d'ailleurs, à la question de la disparité de l'offre éducative. Bon. On s'est mis tout de suite à se demander qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la faisabilité de ça en termes de méthode. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire l'équivalent de la géographie de l'école, de la direction du ministère qui s'occupe de ça, qui a des travaux extrêmement quantitatifs, qui supposent des laboratoires, etc. Et qu'ils avaient des moyens limités dans l'espace, dans le temps, qu'il fallait sans doute ramener un peu la toile. Et progressivement, c'est devenu quelque chose sur les devoirs du soir à la maison, qui est toujours dans leur problématique globale de la disparité, parce qu'ils ont bien vu que, y compris au sein des familles de milieux populaires, il y avait des façons très différentes d'encadrer le moment des devoirs. Je crois que c'était vraiment quelque chose qu'on a appris, mais on y viendra peut-être. Et du coup, les questions de méthodologie ne sont jamais détachées des questions et des problématiques de recherche, parce qu'en réalité, on est aussi capable d'investiguer sur ce qu'on a le moyen d'investiguer. Donc, ils ont fait cette découverte fondamentale qu'on n'a pas d'abord une idée, on trouve la méthodologie. L'idée qu'on a, elle est aussi en partie conditionnée par la méthodologie qu'on est capable de mettre en marche. Alors, il y aurait plein d'autres exemples sur la déontologie de la recherche. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qu'on va solliciter? Comment on les filme? Quelles sont les précautions qu'on prend avec eux pour respecter la dignité des familles? Ils ont découvert toutes les questions, toute la panoplie des questions de recherche ordinaire.
Voilà, merci beaucoup de nous montrer ainsi. Ouais, on peut applaudir. Quand on dit parents-chercheurs, on ne dit pas de bêtises, quoi. Mais mettre en œuvre, donc concevoir aussi et mettre en œuvre une telle méthodologie pendant plusieurs années, ça ne laisse pas indemne. On ne ressort pas tout à fait pareil qu'on est entré. Quels effets produisent les participations à la recherche? Quels effets produit le fait de s'impliquer avec une telle méthodologie dans la recherche? Et j'ai posé la question aux trois parents et, juste après, aux deux universitaires.
Donc, pour ma part, la première chose que moi, personnellement, j'ai appris, c'est de découvrir, déjà, de se remettre dans les bouquins, d'apprendre, de s'instruire, tout simplement. Apprendre à écouter les autres et être résilient, même si on n'est pas d'accord, on écoute et on partage. On a appris, enfin, personnellement, j'ai appris aussi également à parler moins vite. À parler moins vite. Et puis, ben, on a fait des rencontres humaines superbes, grâce au séminaire, grâce aux rencontres. Peut-être qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le faire si on n'aurait pas intégré l'UPP. Voilà pour ma part.
Et même un impact sur
oui.
Comment on
personnel.
Est personnel.
Bah, j'étais très impulsif, donc on réfléchit maintenant. Je réfléchis avant d'agir, et puis on prend du recul, puis on essaye de positiver, même s'il y a quelqu'un en face de nous qu'on aimerait étrangler.
Donc s'il y a des candidats, vous ne serez pas étranglés tout de suite. Merci beaucoup, Rachida. Christy, ou j'ai la Christy.
Alors, nous nous sommes rendus compte hein, que nous avons des connaissances. Hein, nous avons des ressources qui ont pu émerger justement au cours de cette aventure. Ça nous a apporté, je vais le redire, hein, la confiance en soi. On a dû persévérer hein, parce que c'était un engagement. Une dignité au sein de notre cercle, nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos voisins. Le regard a changé. Au départ, c'était une aventure. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre recherche. En thème d'insertion professionnelle, nous avons une maman au sein de notre UPP qui avait un rapport éloigné au numérique. Aujourd'hui, elle s'est inscrite dans une formation de secrétaire. Personnellement, c'est une remise en question de mes pratiques professionnelles. J'apprends à penser possible et non les manques. Voilà. J'y crois, je fais confiance et j'accepte de n'être que facilitatrice et non d'être en avant. J'ai pu donc finalement déconstruire mes représentations et pouvoir en reconstruire d'autres. Donc c'est un enrichissement du point de vue personnel que professionnellement. Il y a beaucoup d'émotions.
Merci beaucoup, Christy. Jamila.
Ah oui, je voudrais un peu rebondir aussi sur ce qu'ont dit les filles. Si vous faites le sondage, souvent, on va dire qu'il y a eu une transformation. Beaucoup parmi nous ne se sentaient pas capables d'aller jusqu'au bout de cette aventure, capable de produire un ouvrage. Hein, ce n'est pas la coupe à la maison, mais c'est l'ouvrage à la maison, pour le coup. moi, je veux dire, il y en a certains qui étaient éloignés du travail. Et en fait, certains ont trouvé, grâce aux UPP, le chemin du réemploi. D'autres ont gagné en confiance. Et puis certains qui sont employés, hein, comme moi, on a gagné en compétences. Compétences, c'est que l'employeur va profiter parce que, voilà, avec des outils développés tout le long des étapes d'une recherche, on acquiert des méthodes, des outils de dialogue, de communication orale, de prise de parole. Et pour le coup, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Donc ça aussi, c'était un chouette résultat qui était inattendu. Voilà.
Là, merci. Donc bien sûr, il y a la recherche elle-même qui est très importante comme résultat. Mais là, on se focalise sur l'effet que ça produit sur nous. Et sur nous, universitaires aussi. Sophie Lamotte et puis Patrick Rayou.
Alors, au niveau universitaire, moi, l'une des premières choses qui aussi nous a donné un rythme dans la manière de travailler, de mettre en place cette recherche, c'est aussi cette possibilité qui est un peu plus difficile à appréhender à l'université, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on réfléchit, on peut aussi penser aux conséquences, aux implications et à ces transformations locales. Il y a quelque chose de dynamique dans le dispositif de recherche qui permet au fur et à mesure de cartographier des acteurs, des valeurs qui vont pouvoir être un point d'appui pour la suite, pour l'après-recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux, qu'on ne vit pas forcément à l'université, on n'a pas forcément la possibilité de penser cet après. Et là, il est vraiment dans le processus même. Donc, ça envoie, et le chercheur, parce qu'en fait, on a encore envie d'accompagner ce qui se passe après, et puis surtout les participantes, dans une dynamique de se savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir remettre, comment il va redistribuer les cartes. Et ça, c'est vrai que c'est, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui était excessivement stimulant dans la manière de travailler avec le groupe.
Y compris sur les autres recherches auxquelles vous participez ou que vous portez, sur la question sur quel impact vont avoir ces recherches, c'est ça que vous voulez dire ?
Alors là, c'était plus sur vraiment dans l'idée des actions citoyennes et de la manière d'agir. Après, ça rentre en résonance, puisque de toute façon, mon champ de recherche est très proche de ce qui peut se faire dans le cadre de l'UPP. Mais là, c'était plus à l'échelle de ce groupe, de produire un savoir qui, à échelle locale, va mettre... ouvre des dynamiques de transformation. Et en fait, c'est saisissable au moment lorsque, on en reparlera, mais sur un entretien collectif avec un directeur d'école qui lui-même est dans une démarche d'innovation sociale, oui, ça va devenir un interlocuteur qui va permettre après de mettre en place une nouvelle réflexion. Et d'accord. Du coup, le sujet, le travail et les conclusions vont pouvoir continuer après à essaimer et à faire bouger à échelle locale, en tout cas, ça c'est sûr.
Merci beaucoup. Patrick Rayou, quel effet sur vous d'avoir participé à la recherche ?
Oui, alors il y a eu tout simplement de grands bonheurs. Hein. Parmi ceux-ci, le fait que j'étais à un moment donné membre d'un jury de thèse à la soutenance de laquelle est venue assister une des mamans de notre groupe, parce que c'était sur une thématique très, très proche de ce qu'on travaillait. Donc le fait que les gens de l'université populaire pouvaient venir à la vraie, entre guillemets, université, je trouvais que c'était quand même... pour moi, une certaine réussite, d'autant qu'après, d'autres personnes n'ont pas pu venir, mais le résumé de la thèse a circulé dans le groupe. Les gens ont beaucoup lu, hein, ils ont une fringale de lecture que j'ai essayé d'entretenir, bien évidemment, mais qui, pour moi, est vraiment un grand bonheur, parce qu'une des questions que je me pose à mon grand âge, c'est que tous ces résultats de recherche qui nous servent à faire du CV, à faire des colloques, à vivre entre nous dans une vie académique extrêmement agréable et rodée, qu'est-ce que ça devient ? Ben, en général, pas grand-chose, parce qu'il y a, pour toutes sortes de raisons, une étanchéité entre les résultats qu'on trouve qui pourrait alimenter assez facilement les actions, hein, éviter de faire des bêtises, etc., même si nous n'avons pas l'omniscience. Et ce type de recherche, et ça, si vous voulez, ça, c'est un rapport avec ce que je continue de faire et pour laquelle l'expérience de l'UPP m'aide beaucoup, ce sont des recherches collaboratives. Nous manquons de recherches collaboratives et elles sont en train de se développer parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il ne suffit pas de prendre des travaux de recherche et de les mettre dans des mots à peu près compréhensibles par tout le monde pour qu'elles diffusent, parce que c'est aussi des questions de rapport au monde, de façon de poser des problèmes, de faire des questions de recherche, comme ça a été dit de manière tout à fait judicieuse, et que ça, c'est en faisant des recherches ensemble qu'on le comprend. Il y a des précédents, je dirais, dans d'autres champs. Le champ de la médecine, par exemple. Moi, j'étais très frappé qu'au moment de la pandémie du sida, on a commencé à mettre dans la boucle de la recherche des associations de malades. On a mis des malades eux-mêmes. Et de l'avis des médecins et des chercheurs, ça a changé un certain nombre de résultats et de façon de regarder cette pandémie et de la traiter. Je me dis que là, l'UPP, elle est un peu un fer de lance de ce type de choses. Qui peut avoir lieu en médecine, mais je crois que dans tout le champ des relations sociales, il y a vraiment un capital sur lequel il faut s'appuyer, ne pas hésiter à faire des démarches de demande. Alors, il y a l'UPP, mais vous le savez peut-être, dans l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle les LEA, qui sont des lieux d'éducation associés à l'Institut français d'éducation, qui, sur le même principe, font que des chercheurs sont sollicités par des demandes de terrain. Et je me dis que l'UPP pourrait aussi s'inscrire dans ces choses-là. Nous travaillons bien au-delà de nos terrains dans quelque chose qui doit pouvoir rapprocher et faire en sorte que la recherche soit utile.
Merci beaucoup, Patrick Rayou. Je vais me mettre à vous voler quelques mots. UPP, fer de lance de recherche collaborative. Je suis un peu raccourci. Mais justement, c'est votre métier, si on peut dire ça comme ça, Emmanuel Porte. Financer, accompagner, développer des recherches qui sont un peu moins académiques qu'académiques et un peu plus collaboratives, participatives, etc. Et du coup, Là, on a été très centré sur les UPP, à juste titre. On parle de vos engagements. Mais si on va au-delà des UPP et de ce que vous voyez, Emmanuel Porte, pardon, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous préconisez comme condition pour que la mayonnaise prenne bien, la mayonnaise des recherches collaboratives, des recherches qui amènent vers l'action, des recherches où les utilisateurs, les usagers sont partie prenante, ça change la matière de voir. Quels sont les leviers pour ça que vous apprenez par votre métier?
Alors, avant les leviers, effectivement, moi j'irai complètement dans le sens de ce qui était dit avant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir conscience qu'il y a un phénomène plus large aujourd'hui dans lequel s'inscrit l'expérience des UPP, c'est-à-dire qu'on entend et se développe des réflexions, on va dire, sur les relations entre science et société, médiées par un rapport à la recherche. Alors on va entendre parler de recherche-action, de recherche participative, de science participative, d'open data, les expériences se multiplient, et elles ne sont pas toutes du même niveau d'implication citoyenne que l'expérience des UPP. Et en ça, cette expérience-là est une expérience qui nourrit un champ beaucoup plus large que la question de la parentalité et des questions éducatives. Mais par contre, dans tous les cas, ce que moi je peux observer, c'est que se pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut créer un cadre de coopération qui soit solide et durable dans ces relations partenariales entre acteurs, on va dire, professionnels de la recherche et acteurs de la société civile, souvent engagés dans des associations. Et vous l'avez tous dit au cours de la matinée, mais c'est évidemment situer d'abord la question, c'est-à-dire bien circonscrire, on ne répond pas à tout, on répond à une question précise. C'est évidemment travailler dans la longue durée, parce que c'est la possibilité de retravailler sur ce qu'on a fait et d'opérer des comparaisons. Et ça, c'est utile, pas seulement dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde associatif. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter après. Et c'est évidemment documenter et sourcer tout ce qu'on fait pour nourrir la recherche elle-même, mais pour les étapes éventuellement de réemploi associatif de cette recherche-là par la suite. Et il est très clair qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des expériences depuis très longtemps là-dessus. On a cité le domaine de la santé avec les associations de malades, c'est des expériences anciennes, mais il y a les sciences environnementales dans lesquelles ça fait très longtemps que des acteurs associatifs ou des amateurs sont associés à de la collecte de données, etc., mais où il y a des demandes de plus en plus fortes de plus seulement être du côté de la collecte, mais être du côté aussi de l'analyse, et de savoir comment on travaille cette relation-là. Donc moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que quand on le regarde comme un tout, ça questionne toujours deux pans en même temps. Ça questionne le fonctionnement associatif et le fonctionnement de la recherche. Les collègues qui sont là disaient bien que l'intérêt à s'impliquer dans des démarches comme ça, qu'est-ce que ça peut transformer dans ces pratiques de recherche? Mais on sait aussi que du côté de l'université, ce qui est difficile parfois, c'est possible qu'un universitaire travaille avec une association sur un projet donné. C'est plus compliqué d'opérer une contractualisation entre une association et un laboratoire, par exemple. Voilà. Il y a des effets de structuration du monde académique qui rendent aujourd'hui compliqué parfois ce type de recherche collaborative et sur lesquels il y a probablement un travail collectif à faire et que peut faire un réseau national comme le vôtre. Et de la même manière, du côté des associations, on est très souvent ancré dans une dynamique qui est celle d'un projet et on a des difficultés à capitaliser les expériences d'un groupe par rapport à un autre. C'est-à-dire que là, vous avez une expérience qui est relativement ramassée. Mais dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, la question de la documentation et du retour sur la documentation qui a été produit au fur et à mesure de ces enquêtes va être un enjeu absolument déterminant pour la vie du réseau associatif lui-même. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on sait qu'il y a, chez les bénévoles comme chez les professionnels du champ associatif, un turnover extrêmement important. Capitaliser ces expériences que chacun a fait individuellement dans une expérience collective qui est celle d'une association UPP ou d'un réseau national, c'est un gros enjeu qui vous posera probablement des questions en termes de formation, de publication, etc. Mais c'est en même temps un enjeu passionnant.
Voilà. Voilà, merci beaucoup pour cette ouverture sur l'ensemble de la recherche. Et puis, si j'écoute en déformant un peu mon oreille, vous nous avez pratiquement dit que c'était super qu'il y ait l'ouvrage qui existe et que tout le monde est invité à l'acheter pour la modique somme de 20 euros en vente dans cette salle. Merci beaucoup à tous les six. On en reste là. Voilà, et en quelques minutes avant la table ronde suivante, un petit interlude que Céline nous introduit sur scène avant de faire le noir dans la salle et d'avoir l'écran. Céline.
Ok, donc pour cet interlude, j'ai écrit un texte que vous allez entendre. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, les UPP, c'était une histoire de posture personnelle, de position les uns par rapport aux autres, de direction dans l'espace et le temps, et d'horizontalité avec les professionnels. J'ai réalisé que c'était le champ lexical de la danse. Alors je vous présente un texte, si les UPP étaient une pièce chorégraphique. Si les UPP étaient une pièce chorégraphique. Déjà, il y aurait des danseurs professionnels et des amateurs. Chacun a la même importance, la même position. Mais avec des mouvements adaptés à chacun, à son corps, son entraînement, sa souplesse, son poids. Des mouvements individualisés pour une équité respectée, mais pas tous à faire les mêmes gestes. Mais des gestes qui respectent chacun pour aller un peu plus loin, mais sans se faire mal, en respectant le corps et le rythme de chacun. Ça serait une pièce de coopération où tous les danseurs œuvrent dans une direction commune. Ça serait hyper physique, nécessitant un investissement personnel et physique fort, comme l'engagement pour 4 ans de travail. Ça serait hyper technique, avec des comptes, des positions, des décrochés, comme l'écriture d'un ouvrage, d'une méthode universitaire. Il y aurait des passages où tous les danseurs sont au sol, pour donner à voir aux spectateurs une belle horizontalité. Puis, au fil de la chorégraphie, le style évoluerait, comme les parents qui y participent. Il y aurait au fur et à mesure des acrobaties, des pirouettes en l'air, des saltos arrière, mais surtout des saltos vers l'avant. Les danseurs auraient des appuis dans le sol solide, les pieds bien ancrés, afin de faire des portées avec les uns au sol qui permettent à d'autres de s'envoler. Comme le parent qui reste à la maison avec les enfants, permettant à l'autre d'aller réunir le bébé. Comme le groupe solide qui porte des individualités et leur permettent de s'envoler. Ça sera une pièce longue où on voit les corps s'échauffer, évoluer, s'essouffler, transpirer. On verrait le parcours. Les danseurs évolueraient sur scène dans des directions précises, des trajectoires claires et affirmées. Enfin, il y aurait un spectacle à la fin pour partager le travail accompli. Et c'est aujourd'hui.